Et aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous dans l'évangile de Luc. Bien sûr, autour de cet événement de l'entrée de Jésus à Jérusalem, puisque nous sommes le jour des rameaux, mais un peu plus loin, avant et après, ainsi nous trouverons peut-être cet itinéraire de Jésus qui s'en va vers la ville où tout finira et où tout recommencera. Et je vous invite à prendre dans le chapitre 19 de Luc. Et nous commencerons au début du chapitre. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes, qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme ils écoutaient cela, il ajouta une parabole, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'ils imaginaient que le règne de Dieu allait se manifester à l'instant même. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté puis revenir. Il appela 10 de ses esclaves, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade derrière lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet individu règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de la royauté, il fit appeler auprès de lui les esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quelles affaires ils avaient faites. Le premier se présenta et dit « Maître, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien. Si tu es un bon esclave, puisque tu as été digne de confiance dans une petite affaire, tu auras autorité sur 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi, de même, tu seras responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit, « Maître, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Je te craignais, en effet. » Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais esclave. Tu savais que moi, je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque ? À mon arrivée, je l'aurais retiré avec un intérêt, puis... » Il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. » Ils lui dirent, « Maître, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous ? » Vous lui direz, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'anon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'anon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'il avait faits, qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Quand approchant, il vit la ville, il pleura sur elle en disant « Si toi aussi tu avais su, en ce jour, comment trouver la paix ? Mais maintenant cela t'est caché. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et t'épresseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. » Entré dans le temple, il se mit à chasser les marchands en leur disant « Il est écrit « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les grands prêtres, les scribes et les notables du temple cherchaient à le faire disparaître. Mais ils ne savaient comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Chantons ensemble « Comment te reconnaître » le 161 dans vos livres. 161. Seigneur, comment te reconnaître parmi les humains auxquels tu insuffles ton esprit? Comment te reconnaître en nos frères? Comment savoir que tu es là près de nous? Ouvre nos yeux, Seigneur, et permets que nous puissions vivre de ta paix dans nos relations avec notre prochain. Ainsi, l'amour que tu as pour nous pourra être manifeste pour ce monde. Amen. Thank you. Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix. Jésus pleure. Avant sa grande colère contre les vendeurs du temple, il regarde la ville sainte, la ville personnifiée par les prophètes, la fille de Sion. Gouvernée par des rois tantôt bénis, tantôt maudits, c'est en son sein que doit s'accomplir le temps de Dieu et elle ne le sait pas. Si toi aussi tu avais su. Luc nous fait cheminer avec Jésus de Jéricho à Jérusalem, en passant par la maison de Zachée et le mont des Oliviers. Il prépare toute l'arrivée à Jérusalem par ses rencontres et ce chemin. Qu'ignore-t-elle cette ville que Jésus semble savoir au moment où il la contemple? Comment reconnaître le temps de Dieu? Dans ce parcours vers sa propre fin, Jésus est décrit par Luc comme celui qui met en regard des règnes contradictoires. Le règne de l'argent, car il est beaucoup question d'argent dans ce passage de l'Évangile. Le règne de l'argent, donc, est de la force. Et celui de la grâce et de la parole. Car il s'agit bien de la question du règne. Dans cet itinéraire d'un homme sans force, qui vient avec sa seule foi et sa seule parole, et qui sera tué précisément parce que sa parole était juste. Alors, pour faire sentir la distance entre le règne espéré par les peuples et celui qui les soumet en réalité, Luc relate dans cet itinéraire des épisodes que lui seul semble connaître. La rencontre avec Zachée, la parabole des mines et les pleurs de Jésus sur Jérusalem sont des récits lisibles uniquement dans Luc. Méditation d'un historien sur le cours des événements. Récit à rebours pour comprendre comment la catastrophe est arrivée sans que personne ne l'empêche. Cette descente vers la mort certaine du juste est jalonné d'indices qui nous parlent de ce règne de Dieu annoncé par les prophètes et de la violence qui va détruire celui qui l'incarne. Luc écrit bien après les faits, évidemment. Il connaît la fin de l'histoire. Il nous emmène dans sa relecture, lui que la tradition appelle le bon médecin ou encore l'évangéliste de la miséricorde. Lui qui s'adresse à ce cher Théophile en commençant son évangile. Théophile, cet ami de Dieu qu'il nous invite à devenir nous-mêmes en écoutant sa version des faits. La route commence à Jéricho, près du palais du roi Hérode, et c'est un homme à l'activité douteuse qui ouvre ce chemin. Un collecteur des taxes. Un homme trop petit pour voir le Messie dans la foule, trop petit à tout point de vue sans doute. Un homme qui monte sur les sycomores quand il veut y voir clair. Le sycomore, cet arbre, ce faux figuier, cet arbre au tronc énorme dont le prophète Amos pinçait les figues pour les faire mûrir artificiellement, lui, le pinceur de figues. Arbre du faux semblant, traditionnellement symbole de la tromperie, qui se prend pour un figuier sans en être un réellement. Zachée est pourtant bien nommé. Il s'appelle Zakaï en araméen, le juste. Il est reconnu tout de suite par Jésus comme un homme qui a besoin que l'on fasse de lui un autre homme, qu'on le fasse descendre de son arbre trompeur, qu'on le débarrasse de sa réputation, qu'on cesse de se tromper sur lui, qu'on le libère de sa vocation pour lui en donner une autre. D'après le père de l'Église, Clément d'Alexandrie, ce Zacchaï est en fait le même homme que Matthias, l'apôtre qui remplacera Judas dans les 12, quand les 12 ne seront plus que 11, dans les Actes des apôtres. Il est donc le symbole du retour sur soi, du converti, de celui qui peut changer radicalement, se mettre à la suite du maître, vivre une vie nouvelle en rendant le quadruple de l'argent qu'il a extorqué dans sa fonction. Dans la maison de Zachée, Jésus annonce ce pourquoi il est venu. Il vient chercher et sauver ce qui était perdu. Et Zachée s'est retrouvé. Puis le discours de Jésus nous emmène non plus chez un juste, chez un converti, mais dans le temps. Nous parcourons le temps avec lui, avec le roi qui partit se faire investir de la royauté dans un pays lointain. Ici, la parabole nous décrit le règne d'un roi qui n'est pas si fictif que ça, car il y a bien un roi qui marqua son époque, Archélaos, le tyran. Et ce tyran était lui aussi parti voir l'empereur Auguste à Rome pour se faire investir roi de Judée. Mais Auguste avait préféré le nommer seulement ethnarque et pas roi. Son règne fut si violent et si cruel qu'une délégation juive s'en alla prévenir Auguste qu'il ne pouvait maintenir la paix dans son territoire et qu'il fallait le déposer. Il fut déposé par l'empereur, mais laissa dans les mémoires le souvenir de toute sa cruauté. La parabole parle d'un placement confié aux esclaves de ce roi sanguinaire et du sort injuste réservé à celui qui était sans doute le plus craintif, le plus méfiant, peut-être le plus sage, le plus réticent en tout cas à faire fructifier le règne d'un roi inique. La parabole illustre l'escalade dans l'injustice et la logique d'un système où les esclaves les plus soumis font par leurs ailes proliférer le mal. En récompensant celui qui sert ses intérêts, le roi l'aliène un peu plus, jusqu'au moment où l'esclave finira par croire que le tyran a raison et que sa façon d'agir n'est pas si injuste après tout. Le tyran met en concurrence ses esclaves dans ce qu'ils ont de plus vil. Comment faire 10 fois plus de profit qu'un autre avec la même somme d'argent? En pratiquant l'usure, sans doute, la fraude peut-être. Celui qui a 10 mines est bien aimé de ce roi, mais il est déjà perdu. Il a franchi la ligne, il est du côté du pouvoir, de la force. Il acceptera désormais la violence du tyran puisqu'elle lui rapporte. Et la violence ordinaire se fera ainsi, perpétuée par ceux qui suivent le roi. Qui est le seul qui préfère perdre sa seule mine plutôt que de servir un maître qui moissonne ce qu'il n'a pas semé? C'est seulement après avoir raconté cette parabole que Jésus descend du mont des Oliviers jusqu'au temple. Ce mont où se tenait d'abord le marché aux animaux avant qu'on le déplace dans le temple avec la complicité des prêtres. La confusion entre l'expiation et le commerce était grande à cette époque-là aussi. On achetait des bêtes pour être pardonnés, les offrir au temple et recevoir le pardon. L'homme qui descend du mont des Oliviers révèle qu'un autre règne que celui où tout s'achète est possible. Là, sur son annon, Jésus se fait citation incarnée. Il cite en chair et en os la prophétie de Zacharie. Le prophète disait : Il est là, ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est pauvre, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus transforme le règne des arrangements en tout genre, avec Rome, avec la loi, avec la religion, avec le pardon, en un règne sans violence, qui ne cherche à acheter personne, qui propose une vie nouvelle sans contraindre quiconque, sans esclaves, sans égorger personne. Le règne d'une parole d'espérance qui s'incarne, qui est vraiment pour l'homme. Un règne où la paix est vraiment la paix, parce que l'homme peut être juste sans craindre de l'être. Non pas la paix inique que le prophète Zacharie dénonce dans ses visions de Jérusalem écrasée sous le joug des envahisseurs, non pas la tranquillité des corruptions sur lesquelles on ferme les yeux, mais la paix des hommes justes, qui reconnaissent leur pauvreté et s'en remettent à leur conscience pour les garder d'eux-mêmes et de leurs penchants égoïstes. La paix de l'homme libre qui choisit l'autorité sous laquelle il remettra sa vie, il placera son obéissance. Le temps de Dieu s'accomplit sous les yeux des enfants de Dieu, sur ce chemin entre le mont des Oliviers et Jérusalem. Un des fils de Dieu prend le risque de vivre selon la parole qu'il a reçue, renonçant à la force et à la violence, renonçant à la fraude ordinaire. En exposant sa vie, il révèle le prix de la paix de Dieu, la vie de chacun. Il révèle la grâce qui donne la paix véritable aux hommes, l'amour de Dieu pour chacun. Et Jérusalem reste dans l'ignorance. Elle ne le sait pas. Pourtant, c'est la joie qui accompagne Jésus dans cette descente vers la ville de la paix. Car Jérusalem veut dire héritage de paix après tout. Alors qu'ignore-t-elle cette cité? Quelle est cette ignorance qui fait tant pleurer Jésus? La même ignorance sans doute qui habite tout homme qui fait son chemin de vie. La même ignorance qui fait que nous ne pouvons pas, comme Luc, réécrire l'histoire après coup, comprendre les tenants et aboutissants de notre destin, puisque nous sommes pris dans le temps, dans la vie même. Nous l'écrivons en temps réel. Nous subissons ces soubresauts, ces injustices, ces dénouements aberrants. Nous croyons maîtriser le choix du règne dans lequel nous vivrons, alors que nous ignorons tout de l'avenir. Comment trouver la paix véritable ? Comment se garder des tranquillités faciles, des injustices qui entretiennent comme un feu sous la braise la haine et la violence, si ordinaires dans nos sociétés? Comment refuser la paix à bon compte, celle qui ne me touche pas, qui ne me demande rien, qui préserve mes intérêts, quand bien même d'autres devraient en mourir ailleurs, très loin de moi, dans mon ignorance complète? Sans doute n'y a-t-il pas de recette, de morale préétablie, de principes, de dogmes pour garantir la paix de Dieu dans nos vies. Cette paix véritable où l'homme est juste et sait qu'il est sur le bon chemin. Et la descente de Jésus assis sur son ânon nous montre combien ce règne de Dieu est fragile en l'homme, car parmi ceux qui crient « Béni soit celui qui vient », certains seront sans doute un peu plus tard à demander justice en criant « Crucifie-le », et ce seront pourtant les mêmes hommes. Ce que Luc nous montre dans ce récit qui va de Zachée, le collecteur des taxes touché par la grâce, aux marchands du temple qui vendent la grâce, ce sont des vies humaines, des hommes, rien que des hommes. Et à chaque fois parmi eux, un se lève et fait différemment, résiste à l'ordinaire et espère par ses actes et sa vie. Parmi eux, un homme, par son courage, rend Dieu si proche que l'espérance est encore possible. Que ce soit Zachée qui se convertit, que ce soit cet homme qui refuse de faire fructifier la mine du roi injuste et qui la garde paisiblement en attendant, que ce soit Jésus lui-même qui vient dans cette ville pour continuer à prêcher une parole qu'il a reçue alors qu'il est menacé dans sa vie même. Malgré l'injustice, l'ignorance, les rois iniques, un homme a le courage de croire que le règne de Dieu commence par lui-même et qu'il peut faire quelque chose, parce que Dieu espère en lui. Croire que Dieu espère en nous, ne pas baisser les bras, ne pas céder à la fatalité, peut-être est-ce ainsi qu'on trouve la paix de Dieu. Amen.